Bonjour et bienvenue dans les carnets de l'alchimiste, un podcast d'expérimentation en écriture. Moi c'est Renalys, tu peux m'appeler Angéline, c'est mon véritable prénom. Alors aujourd'hui, pour recommencer les carnets, après une longue pause, j'ai même arrêté de compter, je te propose un petit storytelling avant de débuter la deuxième saison des podcasts, avec plein d'invités et quelques passages en solo pour moi, avec un storytelling qui date de ma maison d'édition, du moment où on essayait en tout cas de la lancer et qu'on avait déjà des manuscrits à analyser pour voir si on pouvait les publier, avec une histoire de plagiat. Oui, t'as bien entendu, on a eu à gérer un auteur qui nous avait soumis un manuscrit qui sentait fort le plagiat, pour pas l'accuser complètement. En tout cas, ça sentait très fort et je crois que si on vous l'avait proposé, vous nous l'auriez dit également que c'était vraiment du plagiat sur Twilight. Oui, sur rien d'autre que Twilight. Alors les histoires de plagiat, on en parle beaucoup sur Internet et dans tous les domaines. Il n'y a pas que la littérature qui est touchée. Mais en tout cas, moi, je vais me concentrer là-dessus. On a entendu beaucoup parler que Harry Potter était énormément plagié sur d'autres fictions, dont, et il y en a beaucoup qui le disent, sur Star Wars, mais ça j'ai en plus envie de dire que c'est plus le style d'histoire qui est plus plutôt l'initiation du héros, le voyage du héros, où c'est, en tout cas le premier est bien calqué sur ce schéma-là. Mais en même temps, on pourrait autant dire que Star Wars est du coup plagié sur le voyage du héros. Mais bon, ça c'est encore une autre histoire. Il y a par contre une histoire beaucoup plus plausible, je dirais, où Harry Potter, en tout cas J.K. Rowling, aurait plagié le roman d'un autre auteur qui avait fait à peu près la même chose, dont le nom, mais j'ai oublié, et j'ai pas fait mes recherches là-dessus. C'est maintenant que j'enregistre que je me souviens de ce truc-là. Où J.K. Rowling aurait plagié justement ce manuscrit-là. À défaut de ne pas pouvoir le dire ici en audio, je mettrai les liens dans la description du podcast. Mais revenons du coup à mon petit storytelling, à ma petite histoire, à ma petite anecdote sur quand on nous a soumis un manuscrit plagié sur Twilight. Dans la grande question de pourquoi est-ce que les manuscrits sont si souvent refusés par les maisons d'édition, il y a du coup la possibilité que le manuscrit ait été trop inspiré, pour ne pas dire plagié, d'un autre roman déjà publié ou même d'une série. D'un film, ça arrive, et c'est ce qui nous est arrivé avec un plagiat de Twilight. Pour dire à quel point, et pour te dire aussi que ce n'était pas juste une inspiration avec plusieurs clins d'œil, non. En fait, ce roman-là, ce manuscrit, était, j'ai envie de dire, hautement problématique, pour plusieurs raisons, et qui m'avait fait dresser les cheveux sur la tête à l'époque. Déjà le titre. Je ne me souviens plus exactement dans les termes exacts quel était le titre, et dans un sens tant mieux, j'ai pas envie de porter atteinte à l'auteur maintenant, surtout s'il a réussi à s'améliorer et qu'il y a proposé quelque chose d'original à une autre maison d'édition. Le roman qui nous avait soumis à l'époque avait un titre qui se rapprochait fort de Twilight en prenant son contre-pied vers la lumière. Ça je m'en souviens parce qu'il y avait White dedans. Mais le nom en entier, je ne saurais plus le dire. Déjà là, j'étais ok. Mais bon, juste avec le titre, je me suis dit, ouais, bah ça, c'est un petit clin d'œil sympa. Puis j'ai lu son résumé qu'il nous avait fourni avec son manuscrit. Et c'est là que je commençais à me dire, ça sent le pâté. Parce qu'à ce niveau-là, ça sentait clairement le synopsis, en tout cas le scénario de base de Twilight. Sauf que au lieu d'avoir Bella, on avait un garçon, et au lieu d'avoir Edward, on avait une fille vampire. Là, j'ai envie de dire règle 63. Tout personnage ayant existé aura forcément sa version de sexe opposé. Et là, oui, exactement, c'est arrivé. C'est pas juste avec le synopsis, en tout cas, que je me suis dit c'est du plagiat. C'est en lisant le manuscrit. Donc la manière dont on fonctionnait chez Fictum, c'était qu'on lisait d'abord les 10 premières pages, puis on prenait au hasard 10 autres pages vers le milieu du manuscrit, et on lisait la fin. J'ai lu les 10 premières pages, et c'était complètement copié-collé de Twilight, avec quelques petites subtilités, comme une fanfiction en vrai. Un peu comme la fanfiction que j'écris sur Harry Potter, qui s'appelle Ennemi de l'héritier, prenez garde, où je prends du coup... le point de vue de Draco durant le tome 2, et j'ai fait en sorte que ce soit pas Ginny qui ouvre la chambre des secrets, mais Draco. Et je suis pas encore arrivée à ce point-là, il faudrait que je termine cette fanfiction. Mais bref, c'est une fanfiction, donc elle n'a pas pour but d'être commercialisée, contrairement à ce manuscrit. C'est ça qui est important dans l'histoire. Donc c'était exactement le même début que Twilight, avec la subtilité du coup que c'était un garçon et pas une fille, donc c'était un garçon et pas Bella, et que le vampire en question c'était une fille, comme je viens de le dire. Donc les 10 premières pages, c'était exactement le même que le début de Twilight. Déjà là, j'étais déçue, mais bon, en voulant quand même pouvoir donner une justification de refus du manuscrit, j'ai continué le protocole de lecture. J'ai pris 10 pages au hasard sur le milieu du manuscrit. Et c'est là où je me suis dit, attends, il y a un problème. J'avais l'impression de relire exactement les mêmes choses que j'avais lues justement au début du livre. Pour être sûre que je m'étais pas trompée, je suis retournée au début, j'ai relu les 10 premières lignes et c'était exactement les mêmes. Là, j'ai commencé à péter un peu un câble, en mode, mais qu'est-ce que tu me fais ? Je suis retournée du coup là où j'étais, où j'avais senti qu'il y avait un souci. J'avais remonté quelques pages au-dessus, et c'est là que je me suis rendu compte que l'auteur avait fait sa petite subtilité par rapport à Twilight, où il avait fait une sorte de « on efface tout et on recommence », mais au lieu de reprendre le contre-pied du début du livre, il avait fait exactement un copier-coller des 10 premières pages. Là, on sort un peu de l'histoire du plagiat. On entre sur un autre thème, mais ça me semble important de le dire et d'en parler. Je suis pas du tout contre le fait de faire une sorte de rebobinage. Après tout, on a eu quand même Code Lyoko qui a fait la même chose. À la fin d'un épisode, vu que les problèmes étaient réparés, il y avait une sorte de retour dans le temps. Et on revoyait exactement les mêmes faits du début de l'épisode, avec une subtilité où il réparait justement les erreurs. Et ça, c'était intelligent, c'était même amusant de les voir faire. Ça, je suis tout à fait d'accord. Ce qui, moi, me gêne, c'est de voir exactement les mêmes choses se répéter à la virgule près et au mot près. Là, je ne vois pas d'utilité. Je ne vois pas d'utilité scénaristique tout court. Je trouve que c'est même de la flémardise. C'est de la facilité scénaristique et c'est inintéressant. Par contre, là où il aurait pu faire quelque chose de très intéressant, c'est de reprendre justement quelques faits sur une page et de montrer justement que le héros sentait qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il se souvient d'avoir déjà vécu ça. Il y a un épisode de Cardcaptor Sakura qui avait fait pareil. Et on voit que Sakura qui se dit « Mais attends, j'ai déjà vécu ça. » Et ça ne prend que peut-être, allez, maximum 2 minutes de... 2 minutes du scénario, 2 minutes à l'écran, pour montrer justement, oui, la journée est pareille. Elle recommence point par point. Tout est là. Elle le dit même elle-même. On a déjà vécu ça et regarde maintenant... machin va tirer et c'est truc qui va recevoir la balle et c'est exactement ce qui arrive et c'est là que c'est là qu'on voit la subtilité d'un de mes personnages qui est un hommage à ce personnage là c'est Sholan voilà C'est Sholan qui arrive et qui lui dit, ouais, toi aussi t'as remarqué, et c'est à partir de là que comme que eux deux commencent à prendre à contre-pied et à essayer d'aller à l'encontre du coup de la carte du temps. Et c'était un épisode que j'avais aimé. Et c'est un truc que j'adore, moi, l'utilisation de l'espace-temps dans les fanfics, non, pas juste dans les fanfictions, dans les fictions même. Dès que ça touche au temps, à la temporalité, moi j'adore. J'adore voir comment les gens utilisent ça. Et c'est bien ça qui, moi, m'avait frustré avec ce passage-là du milieu du livre, c'est qu'il ne l'a pas du tout pris. Il l'a pas du tout pris, et ce, avec plus de 10 pages. Et l'inexpérience de début de parcours professionnel m'a fait écrire un rapport qui, bah, ça se sentait que j'étais frustrée et que j'étais énervée contre l'auteur. Heureusement, je ne fais plus ce genre de choses aujourd'hui. Je prends beaucoup plus de gants, même si quand ça va pas et je le dis. Et je donne beaucoup plus de pistes de réflexion que l'auteur est libre de, ou l'auteur est libre du coup de suivre ou non. À ce moment-là, j'ai fait mon travail. Le reste, c'est de la responsabilité de l'auteur et pas la mienne. Ce qui est beaucoup plus cool pour moi de vivre qu'avant où j'avais un manque total de lâcher prise. Ça, c'était mon petit mea culpa, j'ai envie de dire. Mais ça fait du bien. Du coup, ça, c'était donc pour la petite storytelling. Mais j'avoue que moi-même, je ne suis pas exempte, je crois que ça se dit comme ça, d'être accusé de plagiat. Rien qu'avec ma fanfiction Ennemi de l'héritier, prenez garde, je crois qu'on pourrait accuser de plagiat. Mais je pense qu'en fanfiction, je ne suis certainement pas la première à le faire. Là où c'était un peu plus problématique, c'est que pour contraste, je me suis posé longtemps la question sur une des races de mon univers qui contrôle les éléments. Et j'avais voulu faire justement un hommage à la série Avatar, le dernier maître de l'air. Mais je me suis longtemps bloquée en me demandant est-ce qu'on va pas m'accuser de plagiat? Et avant de reprendre du coup contraste, j'avais posé la question à Livre l'égalité sur Instagram, où je lui avais demandé, ben, où était justement la limite entre le plagiat et l'hommage? Et elle m'a répondu ben, que la limite était faible. Et je vais même te lire exactement le message qu'elle m'avait envoyé. Donc elle m'a répondu, en fait, il n'y a pas de réponse claire à ce sujet. La loi ne pose pas de limite entre l'inspiration, l'hommage et le plagiat. Certaines personnes pensent même qu'il existe un pourcentage maximum de reprises qui est autorisé. Mais en fait, non. Le droit d'auteur est une matière très subjective qui est laissée à libre appréciation de chaque juge. Du coup, c'est à nous, auteurs, de nous auto-censurer et de déterminer à partir de quel moment on pense sortir de l'hommage pour rentrer dans le plagiat. Cela ne facilite donc pas les choses. J'aurais préféré t'apporter une réponse claire, mais malheureusement, il n'y en a pas. Et c'est grâce à sa réponse, et d'ailleurs si jamais elle écoute ce podcast, merci beaucoup pour ta réponse, mais c'est grâce à ça que j'ai pu me poser et voir comment est-ce que je pouvais du coup sortir du plagiat et rester dans l'hommage avec contraste. Et c'est à partir de là que j'ai créé mes propres lois d'univers avec mes élémentalistes. Parce qu'en continuant à faire des recherches pour voir s'il en existait d'autres, ben en fait oui. Et c'est là où Avatar aurait pu être par exemple accusé de plagiat sur les élémentalistes des jeux vidéo. Mais en fait non, parce qu'ils ont leur propre particularité, ils ont leur propre lore. Et je me suis dit, ben voilà, j'ai qu'à faire pareil, j'ai qu'à créer mon propre lore. Et c'est comme ça que du coup que les lois d'univers de contraste se sont créées. Qu'on peut sentir l'hommage sans pour autant m'accuser de plagiat. Et j'avoue, ça fait du bien de se rendre compte que oui, tu peux rendre hommage à une saga que tu as aimée sans pour autant être accusé de plagiat. Donc par exemple, pour cet auteur qui nous avait fourni un manuscrit qui sentait quand même fort le plagiat de Twilight, ce qui aurait été intéressant pour lui, s'il était réellement fan de Twilight. En plus, c'était un auteur, donc un gars. Ça, c'est ce qui m'avait étonné le plus à l'époque. Mais bref, ça, on s'en fout du genre. Mais ce qui aurait été intéressant, et là je fais une impro totale vraiment à froid, vu que c'est quand même 4 ans en arrière, qu'est-ce qu'il aurait pu faire pour continuer à rendre hommage sans pour autant être nager complètement dans le plagiat? Déjà, la règle 63, c'est déjà une bonne idée en soi. Ça change, ça donne un petit coup de frais. Si on regarde les grandes lignes de Twilight, qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte une histoire d'amour entre une humaine et un vampire. Déjà, à ce niveau-là, je pense qu'il y a déjà beaucoup de... Avant le boom Twilight, hein, je parle. Avant le boom Twilight, il y avait déjà quand même pas mal d'histoires d'amour entre vampires et humains, surtout vampires, hommes et humaines. Déjà, rien que Dracula, c'est déjà un bon exemple. Je sais pas si c'est correct ce que je vais dire, mais je pense que Twilight, dans un sens, c'est quand même déjà un hommage à Dracula. Et on a libre cours d'appréciation sur cet hommage, je suis d'accord. Je préfère l'entretien avec un vampire, personnellement, mais bon, bref, c'est pas ça le sujet. Donc déjà, la règle 63, franchement, c'est vrai que c'est un coup de frais, parce que c'est presque devenu un cliché que ce soit une femme qui tombe amoureuse d'un vampire. Ce qui, moi, me pose, entre guillemets, problème. Donc, la règle 63, que ce soit un homme qui tombe amoureux d'une vampire... Ah, un chat qui arrive. Bah, c'est déjà un plus. Je vais faire pause sur le podcast pour pouvoir lui ouvrir. Et me revoilà. Donc, je disais, qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Donc, déjà, on va énumérer on va dire les gros points de Twilight. Donc, c'est une histoire d'amour entre une humaine et un vampire. Une histoire d'amour qui est, entre guillemets, impossible. Parce que le vampire, se considérant immortel, ne veut pas s'attacher à une humaine de peur de souffrir. Ouais, Twilight, c'est très très loin dans ma tête. Donc j'essaye de me souvenir des gros points. Ça parle aussi de dépendance affective. Donc pourquoi pas prendre les gros points de Twilight et le refaire avec la règle 63 sans copier le scénario même de Twilight. Ben, là, ce qui me vient tout de suite, et si ça t'inspire, je t'autorise et je te conseille chaudement de prendre ce que je pense, serait de montrer le point de vue d'un humain qui est harcelé par un vampire qui est en dépendance affective parce qu'il se sent seul. Je trouve que là, à partir de là, prendre justement la dépendance affective, parce que dans Twilight, c'est Bella qui est... Et là, je suis occupée de me dire, c'est quand même misogyne ce que je suis occupée de raconter. C'est quand même Bella qui est en dépendance affective totale sur Edward. Ça devient même une relation toxique, vu qu'elle n'arrive pas à s'en détacher dans le tome 2 et elle fait une grosse dépression à cause de ça. Ce que moi, je peux comprendre vu que je l'ai eu aussi. Mais, ou alors, je sais pas. Ou garder justement, c'est quand même problématique. Soit on garde un humain qui est en dépendance affective sur une fille, ou on fait l'inverse. Mais je trouve que ce serait plus intéressant justement que ce soit le vampire qui soit en dépendance affective sur l'humain. Ou alors je jouais sur les genres et montrais que ça peut être autant l'un que l'autre. En fait, je crois que tu vois ce que je veux raconter. Et c'est là où je me dis, le sujet est hyper sensible. Parce qu'on peut se faire... On peut avoir un retour de bâton, entre guillemets, autant sur les deux genres. Mais je trouve que si on a l'envie de parler de ça et comment dire, de dénoncer des problématiques justement sur ce genre de relation, il y a clairement un filon à utiliser. Et je ne sais pas lequel est le plus intéressant des deux. Est-ce qu'on garde un humain et une vampire? Ou est-ce qu'on garde une humaine et un vampire? En fait, j'avoue que moi je trouve que ça ferait du bien que ce soit justement un humain et une vampire. Et que ce soit une romance malsaine, où on dénonce justement les travers d'une relation amoureuse. Je trouve que ce serait très intéressant. Ça aurait été très intéressant comme ça. Et personnellement, hommage à Twilight, avec un contre-pied, je l'aurais publié.
Oula, bah alors.
En direct, un éternuement de chat. J'espère que ça ne t'a pas cassé les oreilles. Voilà. Donc mon conseil de conclusion d'épisode, et d'ailleurs il y aura ça aussi dans les prochains épisodes que tu vas écouter avec les invités. Donc un conseil de fin et un instant promo. Donc on va commencer avec mon conseil de fin. C'est de regarder où se situent tes hommages et voir où est ta limite sur le plagiat. Et une fois que tu l'as repéré, de commencer à créer justement tes propres règles pour ton univers et ainsi t'éloigner du plagiat. Après tout, à l'heure où on est tous influencés par les œuvres qu'on regarde. C'est impossible d'écrire une histoire sans avoir une base d'influence extérieure. L'originalité à 100%, je dirais qu'elle est très 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 faible. Mais en même temps, c'est ce qui montre la richesse des écrits. Voilà. Et d'ailleurs, si, ça me vient là maintenant, mais pour Lazwarte Skull, qui est mon prochain projet, vu que là, pour l'instant, il est en pause, qui est une histoire d'école de sorcellerie, on pourrait voir là un plagiat de Harry Potter. Sauf que la manière dont moi j'ai voulu l'utiliser, c'est plus vraiment en hommage inspiration, où je montre à quoi ressemblerait une école de magie selon moi. Avec des bails Harry Potter, forcément, mais qui n'est clairement pas dans son univers. Donc pas de plagiat du tout possible. Voilà. Maintenant, je vais finir enfin de blablater et partir sur l'instant promo. Les instants promo que j'ai installés sur les carnets d'alchimistes, c'est pas un instant promo auto-promo, mais plutôt une des conseils d'aller suivre des comptes Instagram, par exemple, que je conseille à tout auteur. Et là, du coup, moi, je vais en faire un par épisode solo. Là, bien sûr, je te conseille vivement Livre l'égalité sur Instagram, si tu veux en savoir plus sur les droits dans la littérature, sur la légalité et tout ça. Et aussi, si tu te poses, par exemple, la question comment... Si tu te poses la question, as-tu le droit de fixer le prix de ton livre en tant qu'auto-édité ou alors avoir des décryptages justement de bad buzz et de scandales autour de la littérature, c'est exactement le compte dont tu as besoin. Voilà, c'est ici que s'achève cet épisode des carnets de l'alchimiste. J'espère qu'il t'a plu, que ça t'a apporté quelque chose d'utile. Je t'invite à le partager sur Instagram pour le faire vivre justement le podcast, ça m'aide beaucoup. Un truc aussi qui peut aider le podcast, c'est de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou de le noter sur la plateforme d'écoute sur laquelle tu es. Je t'invite aussi à t'inscrire à ma newsletter. Elle est gratuite. Il y a juste à cliquer sur le lien qui est dans le podcast. Tu mets juste ton prénom et ton adresse mail et tous les jeudis, tu recevras une newsletter de ma part sur divers sujets, autant du mindset que des conseils d'écriture. Et aussi des petits cadeaux comme des codes promo qui arrivent de temps à autre, ponctuellement. Voilà, il me reste plus qu'à te souhaiter une bonne journée, une bonne soirée suivant l'heure à laquelle tu m'écoutes. Et je te dis à la prochaine pour un épisode invité avec Lilwen Morrigan. Et surtout, continue d'expérimenter.